Bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver, merci d'être avec vous sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud toulousain, la radio qui va de Toulouse jusqu'au pied des Pyrénées. Et nous avons l'honneur et nous avons la chance de recevoir dans notre studio de Rio aujourd'hui monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, monsieur Sébastien Vincini. Monsieur Sébastien Vincini, bonjour.
Bonjour.
Les conseils départementaux, c'est une assemblée délibérante, une assemblée qui prend des décisions, qui est élue au suffrage universel et qui est une émanation de la Révolution française. Ça a subi plusieurs modifications au fil du temps et depuis 2015, on appelle ça maintenant des conseils départementaux avec un certain nombre de personnes qui sont donc élues au suffrage universel et donc vous assumez maintenant la présidence. C'est bien ça?
C'est exactement cela. Depuis 2015, il y a maintenant 27 cantons sur le département de l'Haute-Garonne où sur chaque canton est élu un binôme paritaire, une femme et un homme qui sont envoyés ensuite à l'Assemblée départementale où siègent 54 élus exactement et j'en suis le président depuis le mois de décembre 2022.
Les conseils départementaux ont des missions qui sont la solidarité, l'aménagement du territoire. On y reviendra un petit peu parce que la Haute-Garonne est un territoire un peu particulier en ce sens que très étendu, avec de très grosses disparités en termes de population entre les zones très urbaines et les zones très rurales. Comment conserver cette équité territoriale sur un territoire tel que celui-ci? Ensuite, la transition écologique, on y viendra également, l'éducation, la culture, le sport et le tourisme. Sur chacun de ces points, le conseil départemental a des actions précises. Quelles sont les vôtres?
Alors, vous l'avez parfaitement bien résumé. La première des missions, c'est les solidarités humaines et ensuite les solidarités territoriales. Les solidarités humaines, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'action sociale au sens large, s'occuper des tout-petits, de la protection de l'enfance et la médecine PMI, jusqu'aux seniors, lorsqu'on accompagne les personnes qui ont une perte d'autonomie avec le dispositif d'aide de l'APA ou de la téléassistance, ou encore accompagner les EHPAD publics sur la tarification des lits. En gros, tout au long de la vie, le conseil départemental intervient auprès de nos concitoyens les plus fragiles, mais pas seulement, ceux qui peuvent perdre aussi de l'autonomie ou être en situation de vulnérabilité ou de handicap. Voilà, c'est à peu près 50% de son budget qui est destiné à la solidarité et ensuite à des politiques d'aménagement du territoire. Sur l'ensemble du département de l'Haute-Garonne, une évidence, le conseil départemental entretient, répare, gère les routes départementales, donc dans le quotidien de nos concitoyens, mais pas seulement. Il y a aussi la mission d'éducation où c'est le conseil départemental qui gère et qui construit les collèges sur l'ensemble du département. Ce sont 100 collèges publics. 19 nouveaux collèges vont être construits d'ici la fin du mandat, 7 sur la métropole toulousaine, mais par exemple sur notre grand territoire du canton d'Haute-Rive, il y a eu l'ouverture du collège de Sainte-Gabelle en septembre 2021 et il y a le projet d'en construire un au sud de Muret, en complément des deux déjà existants sur Muret, pour pouvoir délester le nord du Carbonnet, c'est-à-dire soulager celui de Noé et celui de Seyss qu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, le conseil départemental est présent dans le quotidien de nos concitoyens, de la plus jeune enfance, puisque c'est aussi le conseil départemental qui détermine les agréments pour les assistantes maternelles, jusqu'aux politiques d'accompagnement de nos aînés, de nos seniors, à travers les aides que l'on peut faire auprès des services d'aide à la personne ou de maintien à domicile.
Une question me vient tout de suite à l'esprit, c'est-à-dire que vous faites de l'assistance aux personnes, vous faites de l'assistance technique sur la mobilité, sur les routes. Comment vous faites pour financer tout ça?
Aujourd'hui, le conseil départemental a une structure financière assez simple, hein. L'ensemble de nos ressources financières dépendent de dotations de l'État ou d'une fiscalité indirecte, c'est une part de TVA qui est reversée maintenant au conseil départemental. Il n'y a quasiment plus d'impôts locaux. Avant, c'était la taxe foncière que chacun d'entre nous pouvait payer lorsqu'il était propriétaire. Ceci a été recentralisé par l'État et aujourd'hui on n'est plus autonome de manière fiscale, donc nos recettes dépendent entièrement des retours de la fiscalité du national, de l'État. Voilà, chaque année il y a une dotation qui est versée au conseil départemental. C'est pas un petit budget, le département de l'Haute-Garonne fait partie de la douzaine des plus grosses collectivités de France. C'est un budget de 2 milliards d'euros qui est équilibré. On est un des départements les moins endettés de France. C'est moins d'un an pour rembourser notre dette quand on se compare à l'État où on sait que sur les prochaines générations encore, ils seront encore endettés sur notre budget de fonctionnement aujourd'hui. Pour nous, le département a de vraies capacités de pouvoir à la fois investir, mais aussi d'assurer ses politiques de solidarité.
Autre question, comment vous faites, comme on disait tout à l'heure en introduction, pour gérer un département aussi varié, c'est-à-dire avec des zones de plaine, des zones de montagne, des rivières, différentes industries, des énormes industries telles que Airbus et tout ce qui tourne autour, par exemple, ou alors l'Oncopole sur la zone toulousaine, des zones très denses en termes d'urbanisation, et puis des zones très rurales telles qu'on est ici dans le Volvestre, par exemple.
À travers votre question, vous touchez un point très sensible qui nous tient particulièrement à cœur, en particulier nous, les élus. Moi, je suis élu de Sainte-Gabelle et du canton d'Hauterive, donc ici à Rieux-Volvestre, je suis aussi un peu chez moi, où on est sur des zones entre la ruralité et le périurbain, c'est-à-dire où on est sous l'influence économique de Toulouse et de sa métropole. Ce qui est important pour nous, c'est l'équité territoriale, c'est de faire en sorte qu'aucun bassin de vie, qu'on habite la montagne, qu'on habite Fos ou Saint-Béat, ou qu'on habite le nord du département, Villemur, ou qu'on habite le cœur de Toulouse, on a droit au même service public et a le même accès à un certain nombre de services publics. En tout cas, ceux qui dépendent du département, on essaye d'avoir une réponse équitable sur l'ensemble du territoire. Donc comment on fait ? Le département, les services du département, ce n'est pas simplement un hôtel de département au milieu de Toulouse, c'est aussi des antennes partout sur le territoire. On a 30 maisons des solidarités, ici, vous dépendez de celles en partie de Caserne, en partie de Garbonne, avec des permanences sur Rieux, Montesquieu. Mais il y a aussi nos maisons de proximité, qui, elles, vont apporter un soutien pour tous celles et ceux qui ont des difficultés avec les démarches administratives, avec tout ce qui est Internet aujourd'hui, voilà, pour remplir ses fiches d'impôts, pour faire une demande d'aide à domicile, pour toutes les démarches finalement administratives. Il y a une antenne qui a été ouverte à Rieux-Volvestre, et puis on en a plus d'une vingtaine qui ont été ouvertes. Dans le sud du département, par exemple, ce sont des présences de nos services publics, à Salis-du-Salat, à Aspé, à Aurignac, au Fousseret. Voilà. En gros, on essaye d'avoir une présence physique d'agents publics du département qui répondent à des missions utiles pour nos concitoyens. Aujourd'hui, tout se fait par Internet, mais il y a des personnes qui sont un peu éloignées du numérique et qui ont besoin d'être accompagnées. Et nous, là où d'autres services publics ont fermé, nous, on renforce les nôtres en présence en territoire. C'est vraiment l'impulsion que je souhaite porter pour notre département. Sinon, comme vous le dites, c'est difficile de gérer un département aussi étendu, aussi disparate, avec l'une des quatre métropoles de notre pays, des plus denses, des plus riches, qu'est la métropole toulousaine, et un territoire très étendu qui va jusqu'à la montagne. C'est l'hyper-ruralité. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi maintenir un niveau routier de routes et d'infrastructures de très bon niveau. Voilà, zone de montagne, on sait que les routes, c'est essentiel pour ces mobilités, pour ne pas se retrouver isolé. Mais il y a un deuxième réseau qui, aujourd'hui, nous, sur lequel on est très fiers du travail que nous avons accompli maintenant depuis 4 ans, c'est d'amener la fibre optique avec le très haut débit Internet sur l'ensemble du territoire au Garonnais pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune maison, aucune habitation, aucune ferme même, je dirais, qui soit oubliée de cet accès à ce service public qui, pour nous, est essentiel, qui est l'accès au très haut débit, c'est-à-dire à Internet, quel que soit le lieu où on habite en Haute-Garonne.
Et aujourd'hui, ce projet est réalisé ?
Alors, il est en cours. Comme toujours, c'est les derniers kilomètres qui sont toujours les plus difficiles à accéder. Il reste encore des zones où on se bat un peu avec les opérateurs pour qu'ils arrivent à brancher les habitations. Donc, si et là, je suis sûr qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui diront « Mais attendez, chez moi, j'y arrive pas. Ça fait plusieurs fois que j'appelle les quatre grands opérateurs. Je ne les citerai pas. » Effectivement, on est encore en tension avec les derniers kilomètres les plus difficiles. Hein. Ça va être les zones accidentées, les habitations qui sont à 500 mètres du réseau routier, etc. Où c'est toujours le plus difficile d'aller faire les derniers mètres de branchement. Mais on a déployé près de 295 000 prises, ce qui est considérable. Hein. On va être le premier réseau public de très haut débit de France. En termes d'étendue du nombre de prises et demain du nombre d'abonnés. ça permet d'accéder aujourd'hui à tout ce qu'on peut accéder quand on habite au cœur de Toulouse. Accéder au très haut débit, c'est permettre son télétravail, permettre de décider de vivre au village, de développer son activité à distance, comme il y en a beaucoup, des activités de service via Internet. Et que finalement, aujourd'hui, on va avoir développé, déployé plus rapidement le très haut débit en zone rurale qu'il ne l'est au cœur de Toulouse.
Autre point important, vous le disiez tout à l'heure, il y a souvent des directives qui viennent du national pour arriver sur le département. Et c'est le cas aussi en particulier pour tout ce qui va être transition écologique et énergétique. Or, il y a un projet sur la zone de Cazères, autour de Cazères, qui est Air-Garonne, qui est un projet original en disant que c'est même le projet le plus important d'Europe. Avec 100 km² de superficie.
Vous le savez, on est dans une période où le changement climatique a plutôt tendance à s'emballer, même si là, depuis une quinzaine de jours, on a quand même des pluies qui étaient très attendues. Il y a une réalité, c'est que le changement climatique va nous frapper très durement, peut-être plus qu'ailleurs, sur le grand bassin à Tour-Garonne, je dirais dans le grand sud-ouest même, où on était habitué à être au pied des Pyrénées, presque un château d'eau, où l'eau coulait dans la Garonne et dans ses affluents, dans la Rize, dans l'Ariège, dans la Louge, dans le Touche, où on avait un usage tourné vers l'eau superficielle, c'est-à-dire on prélevait à peu près 90% de l'eau qu'on utilise, que ce soit dans l'irrigation, que ce soit pour l'industrie ou pour l'eau potable, des eaux de surface. En gros, on pompe dans les rivières. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le changement climatique, le niveau des rivières est beaucoup plus bas que ce qu'il était par le passé. Et quand on arrive en été, au moment où on a peut-être le plus besoin d'eau, malheureusement, il n'y en a quasiment plus dans nos rivières. Donc, depuis 2016, on a lancé des vraies réflexions avec des actions très concrètes pour faire en sorte qu'il reste de l'eau en période d'étiage et en période de sécheresse dans nos cours d'eau, puisqu'on est complètement dépendant de ces cours d'eau-là pour satisfaire l'ensemble de nos usages, que ce soit la production d'eau potable, que ce soit pour l'irrigation nécessaire ou pour les usages industriels. Aujourd'hui, on a lancé une initiative qui est de monter le niveau de la nappe de la Garonne en période où il y a encore pas mal d'eau dans la Garonne, en la prélevant de manière gravitaire via le canal de Saint-Martory, qui vient ensuite irriguer des fossés et des canaux dans le système Saint-Martory, pour permettre naturellement de faire s'infiltrer l'eau dans le sol qui rejoint la nappe de la Garonne, faire monter ce qu'on appelle le niveau de la nappe phréatique, et faire en sorte qu'en période d'été, quand le niveau de la Garonne est le plus bas, l'eau de la nappe vient réalimenter le niveau d'eau de la Garonne. Donc en gros, c'est un système qui était connu depuis l'Antiquité, mais qui n'avait jamais été expérimenté sur le territoire national et non plus en Europe. Donc c'est une première européenne, c'est une première nationale. Comme vous l'imaginez, c'est une alternative à la création de bassines ou de retenues collinaires. Donc c'est très suivi nationalement par l'ensemble des décideurs publics, mais aussi des experts de l'eau, puisque c'est une mission que nous faisons avec Réseau 31, avec nos ingénieurs, mais aussi les scientifiques du BRGM.
Du bureau de recherche géologique et minière d'Orléans, oui.
Exactement, qui a une mission de service public pour la surveillance des eaux souterraines, donc ce sont les meilleurs, ce sont les experts dans ce domaine-là, reconnus de tout le monde. Ce n'est pas conflictuel ce projet que l'on porte, il faut bien le préciser. On a associé l'ensemble des acteurs, l'agence de l'eau, la région, le département, les services de l'État, mais aussi les associations naturalistes, les associations de consommateurs et aussi les agriculteurs sur ce territoire, puisque il faut que ça soit compris par tout le monde, ce que nous sommes en train de faire. Donc l'expérimentation va se faire sur 4 ans. C'est sur une zone de 100 km², 10 km par 10 km, c'est au sud de Cazères. Il y en aura une autre zone qu'on expérimentera l'année prochaine, qui est autour du Fousseret. Elle est en train d'être repérée, puisqu'on ne peut pas le faire partout, réinfiltrer l'eau. Déjà, il faut utiliser des fossés déjà existants. Il ne s'agit pas, nous, de construire des nouvelles canalisations. Donc, on met en eau ces fameux fossés, on maintient un niveau d'eau très important dans les fossés qui font que ça s'infiltre naturellement dans le sol et ça vient remplir la nappe de la Garonne en période, donc là, fin d'hiver, début de printemps, au moment où il y a quand même un niveau suffisant dans la Garonne. Et après, on va surveiller comment cette eau revient dans la Garonne en période d'été, puisque la Garonne, on le sait, tous ceux qui connaissent notre territoire voient bien qu'elle est très encaissée à carbone. À Cazères, elle est très encaissée par rapport à ses berges. Et donc, les nappes d'eau qui sont un peu plus hautes que le niveau d'eau de la Garonne en période d'été, la Garonne se transforme en forme de drain, en fait, en période d'étiage. Et ce qui veut dire que la nappe, si on a fait monter le niveau de manière assez suffisante avec cette expérimentation, va permettre la recharge de la Garonne. Le volume généré de stockage potentiel sur ces 100 km², là, sur cette étude de caserne, c'est à peu près entre 5 millions et 20 millions de mètres cubes stockés sous la terre. C'est considérable, hein, quand on regarde, quand on se compare par rapport aux méga-bassines qui sont de l'ordre de 500 000, 600 000 mètres cubes, 1 million de mètres cubes stockés hors sol. Là, dans le sous-sol, c'est entre 5 et 20 millions de mètres cubes. On espère qu'on pourra en restituer à la Garonne 25%. Donc, c'est considérable en termes de potentialité. Bien sûr, c'est une expérimentation. On ne sait pas tout encore, parce que c'est un mécanisme complètement naturel. On force un peu le cycle naturel de l'eau, mais c'est un cycle lent. On espère sur les 4 ans que ça va être très probant et maintenir un niveau d'eau, permettre d'avoir une solution, une alternative à la création de bassines en plaine. Mais sur nos territoires, ça ne peut pas être transposé partout. Il faut faire attention à dire que c'est une alternative à toutes les bassines, toutes les retenues. Mais en tout cas, en plaine, chez nous, oui, ça peut être une alternative. C'est ce qu'on va surveiller pendant 4 ans pour voir quels sont ses effets.
Donc, ce qui est intéressant à voir dedans, c'est qu'on adapte en fonction de la géographie, en fonction du sous-sol local, des solutions locales.
Exactement, c'est une solution locale qui ne génère pas de conflit, mais aussi qui va servir à l'ensemble des usages. On n'oppose pas, nous, dans les réponses qu'on essaye d'apporter, les usagers les uns aux autres. Il ne s'agit pas de dire que ça va être en faveur des consommateurs d'eau potable contre les irrigants. Non, ça va satisfaire l'ensemble des usages. Pourquoi ? Parce que on est tous interdépendants. Sans le système Garonne, il n'y a pas d'irrigation, certes, mais il n'y a pas de production d'eau potable à Toulouse, à Muret, à Carbonne, à Caserne. Dans ce grand département, il y a une très grande majorité des Hauts-Garonnaises et des Hauts-Garonnais qui dépendent des prélèvements qui sont faits dans la Garonne. Donc, soutenir le niveau d'eau dans la Garonne, c'est permettre l'ensemble des usages, à la fois nous en tant que consommateurs au robinet, mais aussi l'irrigation qui est nécessaire pour maintenir une agriculture, parce que notre département est un territoire agricole. Il faut maintenir une activité agricole. C'est nécessaire pour aller aussi vers des circuits courts, vers de la production locale et donc de la consommation locale. Et on le sait, sans eau, il n'y a pas d'agriculture.
Une question un peu plus politique maintenant. Vous disiez que les financements arrivaient de l'État. Avec votre recul depuis le temps que vous êtes au conseil départemental, on a l'impression que l'État se désengage de plus en plus et prend appui sur les régions et sur les départements pour assurer certaines fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est plus ou moins vrai. Je trouve qu'il y a une recentralisation au contraire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'État de décider à notre place et nous demander de faire. L'État décide, l'État prélève l'impôt, c'est plus nous directement, et nous impose de faire. De plus en plus, on a l'impression qu'on va devenir un opérateur de l'État sur un certain nombre de sujets, en particulier les solidarités ou des politiques volontaristes. Bon. Moi, je suis pour une vraie décentralisation. Je crois qu'on est tout autant capable de faire et de mettre en œuvre, on l'a vu pendant la crise du Covid. Heureusement qu'il y avait les collectivités territoriales qui ont pu être agiles, innovantes. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu de masques, il n'y aurait pas eu des centres de vaccination, on n'aurait pas créé les systèmes de solidarité en réactivité. L'État a su faire des politiques nationales pendant cette crise. Voilà, il a su soutenir l'activité, il a su maintenir des dispositifs qui permettaient le chômage partiel, de maintenir de l'emploi. C'était très bien, mais dans l'agilité au concret, au réel, pour organiser des services publics, pour répondre en proximité à nos concitoyens, il faut des collectivités autonomes capables de faire avec des ressources financières pour le faire. Moi, ce que je constate depuis 2015, c'est qu'on nous a coupé notre autonomie fiscale sans pour autant baisser la pression fiscale sur nos concitoyens. On avait la taxe foncière, elle a été en partie prise par Bercy et une autre partie donnée aux intercommunalités, donc elle n'a pas été supprimée pour nos concitoyens. Il y avait la contribution sur les entreprises de la CVAE qui, elle, nous a été complètement pris et compensée par de la TVA. Donc là, ça a été un transfert de fiscalité des entreprises vers la TVA. La TVA, c'est tout le monde qui la paye, ce sont les consommateurs. C'est l'impôt le plus injuste, mais c'est la seule ressource maintenant qu'il y a pour les collectivités comme les départements. Et donc, effectivement, nous bride un peu sur nos capacités de faire, tout en exigeant de nous de faire. C'est un peu un paradoxe franco-français, très jupitérien, je dirais, depuis maintenant quelques années. Ça fait partie des aléas politiques, les choses ne sont pas figées dans le marbre. Moi, je suis profondément décentralisateur, je crois beaucoup à nos capacités. Moi, quand je me déplace sur le marché de Carbonne, quand je viens au Papogaï à Rieux-Volvestre, on sait m'interpeller si je ne fais pas bien les missions pour lesquelles on m'a élu. Et je crois beaucoup à la décentralisation. Voilà, les gens sont plus exigeants avec nous-mêmes et nous le sommes nous-mêmes dans l'exécution des missions pour lesquelles on nous a élus.
Sébastien Vincini, président du conseil départemental de Haute-Garonne, si vous aviez un message à faire passer à tous les Haut-Garonnais, quel serait-il ?
Un message peut surprendre, mais un message très optimiste. Moi, je crois que face aux grands défis qu'on a à relever, le défi climatique, comme celui que je décrivais au moment où je parlais de la question sur l'eau, ou celui des solidarités, voilà, il faut toujours distribuer plus de richesses et mieux la répartir et la partager pour être dans une société plus juste, plus solidaire. Moi, j'ai un message optimiste puisque partout où je vais, je vois beaucoup d'esprits d'initiative, des élus locaux qui s'investissent, des associations qui mènent des beaux projets pour qu'on vive correctement sur notre département. On a un département qui est l'un des plus jeunes de France, qui est l'un des plus dynamiques en termes de création d'emplois et de richesses. Et je crois qu'aujourd'hui, si on prend un peu confiance en nous collectivement, si on fait preuve de respect entre les uns et les autres et qu'on se met autour de la table pour bâtir des solutions communes, ben, je suis sûr qu'on peut relever ces fameux grands défis qui sont ceux de la solidarité, défis démocratiques, je l'évoquais, et défis climatiques. Je fais partie d'une génération qui sait qu'il a des décisions à prendre très importantes aujourd'hui, mais je suis plutôt confiant. Depuis décembre, je vois beaucoup de belles énergies sur notre beau département de Haute-Garonne.
Donc la Haute-Garonne, une terre d'espoir.
Une terre d'espoir, oui, exactement.
Président Vincini, merci beaucoup d'être venu sur Radio Galaxy. On vous souhaite une excellente journée parce que je sais que votre agenda est chargé. Et puis, ben, écoutez, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup de l'invitation. Y yo